Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel.
Quand tu clôt comme ça une période professionnelle, c'est hyper important de faire un bilan, de regarder vraiment tous les aspects, ce que tu as pu tirer, ce que tu as pu apprendre, les erreurs que tu ne veux plus commettre, la direction dans laquelle tu veux aller, la nouvelle vision que tu as envie de porter. Le message que tu as envie de transmettre, c'est hyper important de le faire. Donc moi, j'ai vraiment pris ce temps, effectivement, pour me poser avant de recréer tout ce nouvel univers autour de mes services aujourd'hui.
Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Ok, let's go. Salam alaikum wa rahmatullah, Emmanuel.
Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.
Comment ça va?
Mais ça va super. Et toi, comment vas-tu?
Très bien, merci. Écoute, c'est un plaisir de t'accueillir sur ma chaîne. C'est un petit moment qu'on s'était déjà parlé et on s'était programmé ça pour la fin d'année 2022, alhamdoulilah. Donc, on a beaucoup de choses sur lesquelles on va discuter aujourd'hui. J'ai hâte de développer un peu tout ça. Tu as pas mal d'expériences qui, je pense, sera intéressant à partager. Pour commencer, Emmanuel, je te propose de nous faire une présentation rapide de qui tu es, d'où tu viens, voilà, où tu habites, etc.
Ok, donc merci pour cette invitation. Ça fait très plaisir de répondre à l'appel, surtout quand tu m'as parlé un petit peu de l'esprit et de la vision du podcast dans laquelle je me suis beaucoup retrouvée. Du coup, moi, je suis consultante en marketing digital. Mon métier, c'est le conseil. C'est vraiment d'aider les entrepreneurs à se lancer ou bien à se développer en utilisant les réseaux sociaux, le marketing digital. En gros, c'est comment on va aller trouver des gens qui ne vous connaissent pas pour qu'ils commencent à vous connaître et qu'ils deviennent vos clients et qu'ils se fidélisent. C'est vraiment tout le parcours, tout ce qu'on peut mettre en place. Donc, je suis ce qu'on appelle souvent une mumpreneur. Je suis dans la case mumpreneur, donc ça veut dire, j'entreprends, je gère mes entreprises depuis chez moi, ce qui me permet de passer pas mal de temps avec mes enfants, de profiter de pouvoir organiser mon emploi du temps en fonction de mes priorités, sachant que la famille, pour moi, c'est une des grosses priorités. Donc voilà un petit peu le background, et sinon, je vis dans l'est de la France.
Cool. Tu as suivi quoi comme cursus scolaire?
Alors, bac ES, après le bac DEUG de sociaux, fac de sociaux. J'ai fait une tentative de licence en logistique. Pour la petite anecdote, en fait, je me suis retrouvée dans un métier où on nous apprenait à manager des chauffeurs routiers. Ouais. Donc, c'était hyper intéressant parce qu'au final, quand tu sais manager des chauffeurs routiers, après, tu peux manager à peu près... tout type de profil, mais c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Puis après, je me suis un petit peu lancée sur le marché du travail, un petit peu comme ça. Mais le plus marquant, ça a été vraiment ma reconversion dans le digital. Donc après la naissance de ma deuxième fille, j'ai fait une reconversion dans le digital pour devenir webmaster graphiste. Donc ça, c'était en 2010-2011.
Donc webmaster, tu peux nous décrire ce que c'est?
En fait, c'était vraiment pour apprendre les bases du langage de programmation web. Donc, tout le code en fait, qu'il y a derrière un site web, il y a différents langages. Et c'était l'idée d'apprendre la base de ces langages-là pour pouvoir développer des sites Internet créer des sites Internet pour des personnes qui en ont besoin, pour des entreprises. Et le côté graphiste, en fait, c'était pour être... En fait, dans le développement web, vous avez les gens qui travaillent sur le back-end, donc les coulisses, et les gens qui travaillent sur le front-end, donc c'est ce que les utilisateurs voient quand ils naviguent. Et donc, le côté graphiste, c'était pour travailler sur le front-end, donc vraiment être capable de faire un joli site qui facilite la navigation avec une belle expérience client.
D'accord. Et du coup, tu as apprécié l'expérience?
Énormément.
Et tu as enchaîné, qu'est-ce que tu vas faire ensuite?
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en même temps, je commençais à lancer la page Facebook à Hawaii Business. Et je gérais plusieurs groupes sur Facebook. Enfin, j'avais pas mal d'activités à l'époque. C'était vraiment Facebook qui était le réseau
On parle de quelle année, là? 2010
1780. On est, ouais, effectivement, on est en 2000, on est en 2010, 11, 12. Et donc voilà, Facebook, c'est vraiment le top des réseaux à ce moment-là. Donc, mmh. je crée la page Arkawet Business parce qu'en même temps, je suis gérante de ma première boutique physique.
D'accord. D'accord.
Donc, voilà, tu nous expliques. Exactement.
Alors, Arkawet Business, ouais. qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça a en rapport avec la boutique aussi ?
Ouais. Donc, en fait, plus exactement, j'ai d'abord été gérante d'une boutique physique. Donc,
d'accord.
C'était un endroit où on vendait des produits de boulangerie. Des baguettes, des croissants, des pains au chocolat, des okay. sandwichs.
Okay.
Et je me suis retrouvée là un peu par hasard, vraiment, pas par hasard, mais par le fruit du destin. Et donc, je me retrouve là et je commence à vraiment apprécier le fait d'être mon propre patron. Je commence à y voir beaucoup d'avantages, même s'il y a aussi beaucoup d'inconvénients, parce qu'à l'époque, j'y connais rien dans l'entrepreneuriat et forcément, on fait beaucoup d'erreurs.
Mais rien à voir avec le webmaster, en fait, rien à voir avec le développement informatique.
En fait, ça va venir après.
D'accord.
En fait, ça va être l'enchaînement, il se fait après. Du coup, voilà, je suis dans cette boutique et je me dis, il y a certainement d'autres femmes voilées qui ont pensé à devenir leur propre patron, étant donné que on ne peut pas accéder au monde du travail à partir du moment où on porte le voile. À l'époque, il y a zéro place. Maintenant, il y en a un peu plus, mais à l'époque, il y avait vraiment zéro place. Du coup, je crée cette page. Donc, ça, sur Facebook, ça se développe, etc.
Cette page, pour quoi faire? Pour trouver des...
Alors, la page Arkawet Business, c'était le premier réseau de chefs d'entreprise musulmanes, d'entrepreneuses D'accord. musulmanes. C'était vraiment le tout premier à l'époque, il n'y en avait pas. Et voilà, c'est vraiment l'idée de se dire, mais je ne dois pas être la seule en fait à y avoir pensé. On doit sûrement être d'autres. Et celles qui sont déjà lancées ont certainement des choses à partager qui vont aider toutes celles en fait qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, okay. ça commence comme ça. Et on tisse un petit réseau et ça devient très vite,
ça prend
très vite un projet un peu plus grand, quoi. Ouais.
Mm-hmm. Donc, vous faites quoi? Vous faites des événements c'est juste pour discuter dans le groupe, pour se donner des conseils?
Ouais, donc au départ, ben, c'est une page Facebook avec tout ce que ça peut contenir comme des contenus qui vont être motivants, qui vont inspirer les gens, des conseils, des premières notions de base sur l'entrepreneuriat. Et puis, ensuite, ça passe sur un blog pour pouvoir écrire du contenu qui est plus fourni, qui est plus expert aussi, puisque autour de ce blog, après, il y a une en tout, il y aura eu peut-être 20 ou peut-être 30 même rédactrices qui auront contribué à écrire des articles sur le blog sur plein de thèmes. En fait, on cherche des personnes qui ont des expertises à partager et elles viennent rédiger des articles sur le blog. Donc, moi, je les gère. Je gère toute l'équipe des rédactrices. Je les forme à écrire comment on écrit des articles sur un blog pour que ce soit présentable, agréable à lire, que ça soit parlant au niveau du référencement, que ce soit efficace.
En plus, tu retrouves facilement sur Google, quoi.
Exactement, et franchement ça marche bien.
Ok, c'est là que tu commences à utiliser tes compétences en webmaster.
Et c'est ça, toute la partie site web, toute la partie graphiste, voilà, toute la partie visuelle, communication, etc. C'est vraiment là-dedans que je fais que je concrétise en fait les compétences que j'ai pu
Donc tu es gérante en parallèle dans cette boulangerie et aussi tu commences à développer le réseau Arkawet Business.
Oui, c'est ça. Et, okay. Ensuite, je ferme la boulangerie parce que c'est un projet qui... et c'est important de le dire. En fait, c'est un projet sur lequel j'ai beaucoup investi financièrement. Parce qu'à l'époque, j'avais, comme je n'y connaissais rien, j'avais une équation dans la tête. Plus tu mets d'argent, plus tu vas récupérer d'argent, plus ça va être rentable.
Okay.
Sauf que dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est des valeurs qui ne sont pas du tout corrélées. Donc, j'avais beaucoup investi, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Et du coup on arrive au bout de 2 ans où je me dis non, là il faut que j'arrête. Donc je prends la décision de fermer, de liquider. Donc du coup j'ai tout appris sur le tas, quoi. Tout ce qui était gestion d'une société, les papiers vraiment de la création d'entreprise jusqu'à la liquidation de l'entreprise, je vis tout sur le terrain. Du coup après je suis capable de transmettre ça et d'expliquer ça aux personnes qui ne sont pas encore dedans.
D'accord.
C'est vraiment cette expérience de terrain qui va me donner les premières armes pour aider les autres personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat.
Donc, tu te mets en fait à temps plein sur le projet d'Arkawet Business après ça?
Oui, après, c'est vraiment 100% Arkawet Business.
Et ça se développe comment du coup ce groupe? Enfin, ce blog, comment ça se développe, ouais?
Ça se développe, ça plaît énormément. Et en fait, il y a une année, enfin, je ne sais plus si ça a commencé, je pense que c'était en 2011 ou en 2013, honnêtement, je ne saurais plus. Mais il y a une année où j'ai l'idée de faire un concours des entrepreneuses musulmanes pour mettre justement en lumière toutes ces femmes qu'on commence à rencontrer et qui ont eu aussi cette idée de se lancer. Donc, il y en a qui tiennent des restaurants, il y en a qui tiennent des boutiques, il y en a qui sont, qu'est-ce qu'on a, des prestataires de services, enfin voilà. Et du coup, on fait un premier concours. Donc, une fois que tu as gagné le concours, tu as une journée où c'est vraiment dédié à ta présentation, à ta mise en lumière sur les réseaux et sur tous nos réseaux, quoi, sur tous nos canaux. Et finalement, ça, c'est quelque chose qui va après se répéter quasiment, enfin, tous les ans jusqu'à ce que en tout cas, moi, j'ai quitté la présidence d'Ahwat Business en 2015.
OK.
Et ça a continué encore un petit peu quelques années. Donc, voilà, c'est vraiment un concours qui a eu quand même, qui a eu une belle vie.
Wow. Et ce concours, ça consistait en quoi?
Il faut candidater pour présenter ton projet.
D'accord.
On faisait surtout attention, tu sais, le côté vision, en fait. Le
OK.
côté, l'originalité du produit que tu peux vendre. Il y a des gens qui vendaient des cartes calligraphiées. On a eu une entrepreneuse qui était du Burkina qui montait un projet avicole sur place. Enfin, on a eu plein, plein, plein de profils différents. Et
D'accord.
voilà. Et donc, tu gagnais une mise en. Au début, tu gagnais juste une mise en lumière. C'est déjà énorme à ce
Ouais.
moment-là. Et puis après, quand le concours s'est développé, en fait, l'association après a eu un partenariat avec la fondation Deloitte. Donc après, il y avait des plus gros lots,
Wow, quand même.
il y avait des plus beaux prix, il y avait une cérémonie en physique et tout.
Donc quand même,
Ça, c'est l'équipe
vous avez
après
réussi à
qui
avoir un
a.
partenariat avec du coup cette grosse entreprise.
Honnêtement, en fait, ça s'est passé après que moi je sois partie. Donc,
OK.
c'est l'équipe de l'asso en fait, qui avait pris le relais, qui a continué sur cette voie et ouais, qui a obtenu ce joli partenariat qui a permis vraiment de passer du digital au réel. Et ça, c'était une très belle concrétisation.
Trop bien, trop bien. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, de cette expérience?
C'était génial du début à la fin. C'était à refaire, je le referai. Ça, c'est vraiment l'aspect positif. Beaucoup de rencontres. Moi, j'ai créé mon réseau professionnel. Aujourd'hui, il y a encore des gens de ce réseau avec lesquels je suis régulièrement en contact. Donc, on a des liens de confiance qui se sont créés et qui perdurent. Donc, ça, travailler, soigner, c'est pas travailler, soigner son réseau professionnel, c'est un conseil que je donne à toute personne qui veut devenir entrepreneur. Maintenant, sur la partie un petit peu plus leçon de vie, quand c'est ton premier projet, tu peux avoir tendance à te mettre à fond, trop à fond, et à pas avoir de limite en fait. Tu bosses sur ton projet sans limite, tu n'as pas d'emploi du temps, tu peux bosser des fois des jours et des jours, des fois sans manger, presque sans dormir. Et du coup, tu en oublies que tu as une vie personnelle à côté à gérer. Et tout ça peut faire un effet boule de neige. Ça peut même arriver jusqu'à une sorte de burn-out. Et c'est pas ce qu'on veut en fait. C'est ce qu'on voudrait éviter. Donc ça a été aussi une expérience pour se dire, tiens, la prochaine fois, ça serait bien de trouver un équilibre.
D'accord, donc parce que tu travaillais beaucoup trop sur ce projet-là.
Franchement, ouais. Franchement, ouais, parce que j'étais tellement motivée. Et les gens nous le rendaient beaucoup. Donc, c'est une espèce de roue comme ça, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et ce n'est pas raisonnable. Pour faire perdurer un projet dans le temps, il faut justement savoir doser. Il faut trouver un équilibre. Mais ça vient avec la maturité, quoi.
D'accord. Donc, tu quittes la présidence de Ahrawat Business. C'est pour faire quoi derrière? Tu as un projet? La
Une
suite?
grosse pause.
Une pause?
Alors, une bonne pause, sachant que dans ma vie personnelle aussi, il y a du changement,
Ouais.
puisque donc j'ai deux filles à ce moment-là. Je me sépare du père de mes filles à cette époque. Je refais ma vie, donc je construis une nouvelle famille. Du coup, sur le plan personnel, il y a vraiment pas mal de choses qui bougent et ça me donne en fait enfin, ou plutôt, ça me. Ça me il faut que je prenne le temps de gérer
Ouais.
ma vie perso, d'accorder à mes proches l'attention et à moi-même aussi, parce que je te dis, j'étais tellement à fond que je suis arrivée un peu en bout de course, complètement essoufflée. Donc, à ce moment-là, au moment où je prends une pause, je me dis juste, je veux tout arrêter en fait. Je veux plus qu'on me parle d'entrepreneuriat. J'ai fait une sorte d'overdose. Et
Ouais.
voilà. Mais ça ne dure pas bien longtemps parce qu'en fait, toutes ces personnes que j'ai rencontrées et qui ont vu mon travail et qui ont vu mon investissement me recontactent régulièrement. Emmanuel, c'est quand que tu reviens? Emmanuel, quand est-ce que tu reviens? Etc. Non, je ne reviens pas, je ne reviens pas. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui me sollicitent pour gérer leurs réseaux sociaux. Ils ont remarqué le travail que je faisais sur cet asso, le développement, etc. Et en gros, ils me disent, ce que tu as fait pour Arkawa Business, on voudrait que tu le fasses pour notre entreprise. Et du coup, voilà, il y a cet appel un petit peu, cet appel du réseau qui revient, revient. Et à un moment donné, je finis par céder à l'appel. À l'appel du réseau à revenir travailler, à reprendre dans le domaine de la communication des réseaux sociaux et
Ouais,
etc.
d'accord. Tu as monté quelque chose qui s'appelle Bowies, c'était à ce moment-là ou c'était un peu plus tôt?
Alors non, c'était bien après. En fait, il y
D'accord.
a eu à ce moment-là, donc quand je reviens avec une agence de communication qui s'appelle Communitik, que certains ont peut-être un peu connu. Donc Communitik, la particularité, c'était une agence de communication spécialiste du marché musulman. Et
OK.
ça faisait toujours beaucoup parler parce que les gens me disaient, mais pourquoi tu veux te limiter au marché musulman et tout? Et en fait, la plupart des personnes n'avaient pas compris que quand tu es dans la com, tu dois avoir une niche, tu dois avoir une spécialité, tu dois avoir une expertise pour que les gens t'identifient. Parce qu'il y a tellement de monde, il y a tellement de concurrence qu'il faut trouver un avantage concurrentiel. Et moi, cet avantage concurrentiel était très inattendu. Les gens pensaient que je me fermais des portes et ça a été tout le contraire en fait. Ça a été une si belle expérience que, comme je le dis, moi-même, j'ai jamais eu de site internet pour l'agence.
D'accord.
On faisait des sites internet pour les autres, mais on n'avait pas de site internet pour l'agence. Tout fonctionnait au bouche à oreille. J'ai jamais eu à démarcher un seul client. Les gens venaient vers moi de par la confiance qu'ils avaient dans le travail que j'avais pu faire par le passé et je dirais même en ma personne, puisque j'étais quelqu'un qui soignait beaucoup mon réseau professionnel. Et donc
OK.
voilà, donc là, je suis. Donc en fait, j'ai toute une période comme ça avec Communitik où c'est vraiment, vraiment axé sur la com. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication pour plein de clients en fait qui nous font confiance et qu'on développe comme ça au fur et à mesure.
Top, top, top. Et donc tu fais ça, ça n'existe plus maintenant. Ça a évolué.
Alors du coup, après l'enchaînement. C'est que quand je suis à Communitik, les clients commencent à exprimer le besoin d'être formés pour être plus autonomes sur la partie communication.
OK.
Et donc, il y a cette demande, en fait. Et quand tu es entrepreneur, il faut toujours tendre l'oreille à la demande des clients. Parce que finalement, ce n'est pas la peine d'essayer de leur vendre des trucs dont ils n'ont pas besoin. Les gens veulent acheter des choses qui vont soulager leurs problématiques du moment présent. Donc, il y a cette demande de formation. Et au même moment, j'ai une amie en fait, qui se lance dans la formation et qui m'appelle et qui me dit « Emmanuel, franchement, je pense que la formation pour toi, ça peut être vraiment un bon créneau. » Et effectivement, cette demande d'un côté plus cette opportunité de l'autre côté, je commence à envisager de passer sur un volet formation. Et
OK.
donc, en me formant déjà. Pour devenir formatrice et toute la partie administrative qui est très très lourde dans un organisme de formation. En deux mots, de fil en aiguille, c'est ça qui m'amène à créer Powise, qui sera donc un organisme de formation qui aide les futurs entrepreneurs à se lancer. Donc vraiment sur la partie création d'entreprise, comment je passe d'une idée à quelque chose de concret que je suis capable de lancer, que je suis capable de vendre, où je suis capable d'avoir des premiers clients en fait. C'est ça qu'on fait chez
OK.
Powise pendant 3 ans.
Donc en fait, c'est un peu le public, c'est un peu le même, enfin c'est plus général, c'est plus que les femmes, peut-être. C'est un peu ce que tu faisais avec Harvard Business, mais tu généralises ça, tu professionnalises ça en fait. Tu fais des formations et tu les accompagnes.
Pas vraiment. En fait, c'est différent. C'est une évolution. C'est pas la même cible parce que Powise, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Harvard Business, c'était très communautaire. Il
D'accord.
s'était voulu. c'était voulu, c'était assumé. Voilà, j'ai jamais eu de problème avec ça. Et puis, c'était pas la même chose, en fait. On ne travaillait pas de la même manière à l'époque-là. Et j'ai l'impression de parler d'un truc qui s'est passé il y a 40 ans. Mais en fait, ça va tellement vite dans le digital, subhanallah. Donc voilà, on ne travaille pas de la même manière. Quand on arrive avec Powiz, c'est vraiment quelque chose d'ouvert à tout le monde. Il n'y a pas ce côté communautaire, il n'y a pas ce côté féminin, même si naturellement, en fait, l'équipe étant féminine, on a tendance à attirer un public féminin, mais on a aussi des clients hommes, de tous horizons, etc. Mm-hmm. Donc voilà, la cible à ce moment-là, c'est vraiment la personne qui a une idée et qui a des compétences pour la réaliser, mais qui ne sait pas par où commencer. Ça, c'était la phrase que j'entendais toute la journée. Emmanuel, je veux me lancer, mais je ne sais pas par où commencer. Viens chez Powiz. C'était
ça. On va t'aider. D'accord, d'accord. Et donc ça a duré quelques années. Tu as accompagné combien d'entreprises, d'entrepreneurs, ces entrepreneurs du coup que tu avais comme clients?
Ouais. Non, alors du coup, ce n'était pas des entrepreneurs, c'était des porteurs de projets. C'était des gens qui voulaient devenir entrepreneurs. Et donc, d'accord. On en a formé plus de 300.
Waouh. Et en quoi consistait l'accompagnement? Ça durait combien de temps?
Ça durait 3 mois et c'était hyper intense parce qu'il y avait des objectifs à atteindre toutes les semaines, mais on ne les laissait pas tout seuls. Contrairement aux autres formations en ligne où les gens sont un peu livrés à eux-mêmes, ils ouais. avaient vraiment un accompagnement très poussé avec des séances de business training, donc un peu de coaching entre guillemets, des exercices à rendre qui étaient corrigés. Il y avait toute une communauté autour de ça. Donc, il y avait ce côté, on ne vous laisse pas tout seul, on vous accompagne à 360 degrés. On était là pour répondre aux messages. Voilà, il y a ce côté, on a beaucoup travaillé ce côté proximité, ce côté expérience client pour qu'ils ne se sentent pas tout seuls parce que c'est très, très dur en fait. J'avais l'habitude de dire qu'il faut autant d'énergie pour lancer une entreprise qu'il en faut pour mettre une fusée en orbite en fait. Et c'est ce qui a fait que le logo de Powiz était justement une petite fusée que beaucoup de gens ont retenu d'ailleurs.
Ouais. Non, c'est cool. Et du coup, la population, c'était ouvert à tous, mais finalement, est-ce que tu avais plus de musulmans qui venaient, ou des musulmanes, ou ce genre de choses, ou c'était vraiment varié comme public?
On avait, comme je te dis, en fait, je pense que tu attires avec ton storytelling ou ton personal branding, tu vas naturellement attirer des gens qui vont s'identifier à toi. Donc, même si tu es ouvert à tout le monde en théorie, c'est vrai qu'on avait une forte population de musulmanes qui venaient s'inscrire en fait chez Powiz du fait de cette identification à moi, à l'équipe, etc.
Ouais. C'est cool. Donc, 3 ans. Au bout de 3 ans, tu décides d'arrêter. C'est pareil, c'est un essoufflement. C'est... Pourquoi tu décides ça? Ça avait l'air de bien marcher, 300 personnes qui ont été suivies.
Ouais. C'est des mésententes en interne. Quand tu bosses en équipe, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et quand il y a des mésententes en interne, bah, du coup, c'est difficile de faire perdurer le projet. Du coup, à un moment donné, en mai 2022, Powiz a fermé ses portes.
D'accord, donc c'était mésentente sur l'avenir du projet, l'orientation du projet, ce genre de choses, j'imagine.
Pas forcément, mais y a tellement de façons de se mésentendre. C'est pas simple en fait. C'est pas ni tout noir ni tout blanc. Disons que c'est souvent comme ça dans les projets. C'est au début, toute l'équipe est soudée et tout le monde a la même vision. Mais au final, il peut y avoir des évolutions dans diverses, chacun prend sa route en fait. Ouais. Et quand chacun prend sa route, et le projet au milieu, il se disloque finalement.
D'accord, d'accord. Donc après, du coup, le projet s'arrête et donc tu décides, tu me corrigeras si je me trompe, de lancer ton propre projet que tu peux nous décrire maintenant.
Yes, alors en fait, pour moi, j'ai jamais arrêté mes activités personnelles parce qu'elles me nourrissaient. C'est juste que donc j'avais Community qui était cette agence. Mmh. Je lance Powiz, mais à côté, je fais toujours du consulting. Parce que
D'accord.
les gens me demandent toujours des conseils en communication, en
Et ça,
marketing,
c'est toujours
etc.
bouche à oreille, tu n'as pas de site internet, tu n'as rien, c'est
Exactement.
vrai. Ok.
Exactement, c'est toujours comme ça. Ça, je fais les deux en parallèle, en fait. Je gère mon business perso et Powys en parallèle. D'ailleurs, ça aussi, ça faisait beaucoup. Et du coup, une fois Powys fermé, ben, je me reconcentre finalement sur mon activité de conseil, parce que c'est ce dans quoi je prends le plus de plaisir, on va dire. C'est ce pourquoi je pense j'ai le plus de capacité. En tout cas, c'est ce qui
Ouais.
ressort. C'est vraiment ce dans quoi je m'épanouis. Et au final, c'est vrai que quand un projet marche pas comme tu l'aurais aimé, il y a une grosse remise en question qui se fait. Et parfois, les gens sont. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs autour de moi jeter l'éponge, dégoûter, etc. Et la meilleure façon d'y revenir, c'est de retrouver quelque chose qui nous donne du plaisir, en fait. Donc,
Ouais.
ça peut être n'importe quoi, ça peut être créer du contenu, ça peut être donner des conseils, peu importe en fait. Mais quand tu retrouves ce truc, tu retrouves un peu la flamme, bah, du coup, tu t'y remets tranquillement. Et donc, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi, où je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'aime faire au final? C'était vraiment cet aspect conseil. Du coup, ben, aspect conseil d'une part, et puis création de contenu aussi d'autre part. Parce que c'est vrai que là, depuis que je me suis relancée toute seule, je me suis beaucoup concentrée sur la création de contenu, notamment sur les vidéos sur YouTube. Et donc, c'est le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un, en fait, qui sort un petit peu d'une déception ou d'un projet qui n'a pas marché. C'est de retrouver le plaisir de créer quelque chose, de se lever tous les matins pour bosser sur un truc qui te motive, en fait.
Ouais. La transition, tu prends ton temps à réfléchir, à faire cette introspection, de savoir ce que tu voulais vraiment faire, ou en partant, tu savais exactement ce que tu voulais faire?
Non, j'ai pris une période de réflexion. Je pense que c'est important quand tu clôt comme ça une période professionnelle, c'est hyper important de faire un bilan, de regarder vraiment tous les aspects, ce que tu as pu tirer, ce que tu as pu apprendre, les erreurs que tu veux plus commettre, la direction dans laquelle tu veux aller, la nouvelle vision que tu as envie de porter, le message que tu as envie de transmettre. C'est hyper important de le faire. Donc, moi, j'ai vraiment pris ce temps, effectivement, pour me poser avant de, ben justement, de recréer tout ce nouvel univers autour de mes services aujourd'hui.
Ok, très bien. Donc, par rapport à ce que tu faisais en consulting, tu fais exactement le même consulting ou tu as ajouté des choses autour? Tu me parlais de création de contenu. Qui est-ce que tu accompagnes? Quelles sont tes activités?
Yes. Alors, ce que j'ai remarqué justement en faisant 3 ans chez Powys, c'est que quand tu es prestataire de service, ce qui compte beaucoup pour les clients, c'est la confiance qu'ils sont capables de t'accorder. Et du coup, il faut savoir mettre en place des moyens de gagner leur confiance. Il y a tellement de concurrence, il y a tellement de. On voit de tout, en fait, sur Internet aujourd'hui. Du coup, il faut savoir gagner la confiance des clients. Et donc, ce que j'ai identifié, c'est que notamment les vidéos, permettait vraiment la création de ce lien entre moi et l'audience. Et donc, ce qui permet en fait à une personne à quelqu'un qui a envie de faire appel à tes services, il va consommer tes contenus. Que tu fasses un podcast, que tu écrives des articles ou que tu aies une chaîne YouTube, la personne, elle va s'intéresser à toi. Elle va aller consommer tes contenus pour voir est-ce qu'elle ressent ce lien de confiance. Est-ce qu'elle se dit, ah ouais, cette personne, elle a exactement ce que je recherche, elle propose exactement ce qui me conviendrait, je sens que ça peut me correspondre. Donc, toute cette partie création de contenu vraiment accélère le lien de confiance et donc facilite ce qu'on appelle la conversion. C'est-à-dire qu'en gros, pour pas trop utiliser des termes marketing, parce que c'est toujours du jargon, c'est l'idée de se dire, le contenu que tu vas créer, quand la personne va le consommer, elle va prendre moins de temps avant de sauter le pas, de devenir ton client. Elle va se sentir rassurée à travers les contenus qu'elle va consommer.
Ouais, d'accord.
Du coup, donc moi, j'ai ajouté cette partie, genre dans mon emploi du temps, toutes les semaines, j'ai des
Ouais.
plages vraiment dédiées à la création de contenu. J'ai
D'accord.
des partenaires aussi avec lesquels je bosse. Et puis le reste du temps, ben, ça va être soit de la prospection, entre guillemets, parce que j'ai des gens qui me demandent des rendez-vous pour en savoir plus sur mes services. Et puis le reste du temps, ben, c'est justement les consultings, donc les séances en fait, où je suis dans cette position de conseil en fonction des différents objectifs que les clients me partagent.
Top. Bah écoute, là, je suis sur ta page Instagram. On peut voir tes services dessus. Tu proposes plusieurs packages, les pubs Facebook par exemple, Instagram pareil, visibilité, tu fournis plein, enfin, je crois que tu en as une dizaine peut-être.
Ouais. En fait, il y a deux catégories de services, si tu veux. Il y a vraiment tout ce qui va être les packs. Moi, je fonctionne sous forme de pack à l'heure actuelle. Je trouve que ça fonctionne pas mal parce que les gens comprennent bien sur quoi on va travailler ensemble. Les objectifs sont clairs, il n'y a pas de flou. On sait sur quoi on va travailler ensemble. Donc, j'ai toute une partie des packs qui sont dédiés au lancement. Donc, tout ce que les gens ont besoin de mettre en place pour se lancer, que ce soit trouver une idée, créer une offre, créer une marque, etc. Et puis, toute une partie plus développement. Donc là, c'est vraiment des entreprises qui sont déjà existantes et qui veulent se développer soit par la publicité Facebook, soit par la visibilité sur Instagram, soit par la prospection commerciale aussi. Parce que quand t'es prestataire de services, tu n'as pas forcément besoin d'être hyper, hyper suivi sur les réseaux. Tu as beaucoup plus besoin d'avoir un réseau professionnel qui t'apporte des clients. Donc, voilà, vraiment en fonction de chaque objectif. En gros, pour chaque besoin, j'ai un pack, quoi. C'est un peu l'idée.
Oh, OK. Et comment est-ce que tu as fait pour créer ces packs? Je veux dire, savoir que tu avais besoin d'un pack Instagram. Comment tu as choisi tes packs?
Alors, ce que j'apprenais toujours aux gens qui voulaient lancer un business, c'est de commencer par une étude de marché.
D'accord.
J'ai l'habitude de raconter l'histoire de Armancio Ortega, qui est le fondateur de Zara, qui est aujourd'hui un des hommes les plus riches du monde. Et l'exemple de Zara, ça parle à beaucoup de gens parce qu'il y a énormément de gens qui achètent là-bas et qui est très peu connu d'ailleurs, enfin qui est très discret au niveau de tout ce qui est médiatique. Et dans quelques interviews, il raconte son histoire. Il dit, en fait, moi, j'ai commencé dans un garage et les femmes venaient me voir donc comme couturier hein, avec sa petite machine et il leur disait, dis-moi ce que tu veux et je vais te le faire au meilleur coût. Donc, il y a vraiment ce côté, j'écoute ce que les clients veulent et je leur fais ce qu'ils veulent. Point. Effectivement, au meilleur coût. Mais il n'y a pas ce côté où, tiens, moi, je pense que j'ai une idée géniale et après, je vais essayer de la vendre au monde entier.
D'accord.
En fait, tu vas perdre énormément d'énergie si tu fais ça. Alors que si tu écoutes, bah tiens, j'entends. Tu vois, quand je discute avec, quand j'échange avec des porteurs de projets, avec des entrepreneurs, ils me disent, moi, j'ai tel besoin, j'ai telle problématique. Ah bah ça tombe bien, moi, j'ai des compétences où je peux t'aider. Tu leur donnes ce dont ils ont besoin. C'est comme ça que les gens, ils vont acheter chez toi, en fait. Donc, tout commence vraiment par l'étude de marché. Mais tout simplement, être à l'écoute, quoi. Être à l'écoute de tes futurs clients.
D'accord. Ton étude de marché, tu l'as faite comment? C'est à travers ton audience que tu avais déjà ou tu l'as faite après?
Alors, effectivement, quand tu as une audience, tu peux vraiment beaucoup échanger avec eux sur leurs besoins, notamment en utilisant, par exemple, des sondages en story, des questions, des choses comme ça. Quand tu reçois aussi des messages privés, les gens, généralement, quand ils viennent te parler en message privé, est-ce qu'ils ont besoin d'une réponse? Du coup, c'est assez clair, en fait, de savoir lire ce dont ils ont besoin. Les clients, effectivement, que j'ai pu avoir. Donc, tu vois, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le digital. Donc, entre le réseau Ahrawat Business, toute l'audience qu'on avait à cette époque-là, les clients que j'ai eu chez Communitik, les clients de mes clients, parce que ça, c'est hyper nourrissant, en fait, quand tu accompagnes des projets. Powys, tous les prospects autour de Powys, etc. Tout ça, moi, j'ai jamais cessé d'être à l'écoute. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'ai quelqu'un en entretien pour la première fois, je lui pose toujours la question. Je lui dis, dites-moi si ça vous parle. Je pense que vous êtes dans telle situation. Et généralement, la personne me dit, ouais, c'est exactement ça. Comment vous savez? Et en fait, je le sais parce que j'écoute.
D'accord. Top. Et encore une fois, du coup, au niveau du public, j'imagine que c'est plus ou moins le même. C'est des musulmanes peut-être, des musulmans, grande majorité.
Ouais, en grande majorité, mais pas seulement. J'ai aussi une audience qui est pas du tout musulmane et qui fait appel à moi pour mes services. Mais effectivement, j'ai aussi beaucoup de sœurs qui me suivent, qui me soutiennent, qui, je pense, comment dire, se motive, en fait. Ouais, c'est ce qu'elles me disent. C'est ce qu'elles me disent, en fait, dans les messages. Tu nous motives énormément. Le contenu que tu publies, c'est utile. Ça motive parce que parfois, on est tout seul avec nos projets et c'est difficile de tenir le coup. Donc, ouais, il y a ce côté. Chez les sœurs, je trouve ce qui revient beaucoup, c'est vraiment ce côté motivation. Parce que je l'explique par le fait que le climat politico-médiatique n'est pas très favorable au hijab, pour ne pas dire complètement défavorable au hijab en France.
Ouais, ouais.
Donc, il y a cette espèce de pression comme ça qui est beaucoup sur les sœurs. Et le fait de voir comme ça des personnes comme moi, je ne suis pas la seule, on est de plus en plus nombreuses, mais des personnes comme moi qui sont entrepreneuses, qui sont à leur compte, ça leur donne de l'espoir, ça leur donne de la motivation. Donc, c'est hyper important qu'on prenne la parole et qu'on diffuse un maximum ce boost, en fait.
Top. Bah, écoute, c'est génial. Est-ce que tu t'épanouis dans ce que tu fais? Et qu'est-ce qui t'épanouit dans ce que tu fais?
Ouais, beaucoup. En fait, j'ai plein en ce moment, alhamdoulilah, je suis repartie sur ce consulting, que je me suis vraiment recentrée sur ma propre offre. J'ai eu beaucoup de clients. Alhamdoulilah, j'accompagne de très beaux projets. Et c'est vrai qu'il y a des fois, il y a certains projets qui sont un peu plus coup de cœur que d'autres. Mmh. Et il y a des clients que tu es content, enfin que je suis contente parfois d'avoir. Tu vois, quand je vois que sur mon emploi du temps, quand je vois que aujourd'hui j'ai rendez-vous avec une telle, je me dis génial, parce qu'il y a des projets qui sont tellement beaux, qui portent tellement de sens, tellement de valeur, tellement de belles choses, que t'es honoré en fait de faire partie, une petite partie du projet, d'amener ta petite contribution. Parce que tu sais que ça va faire du bien. Donc ça, c'est hyper épanouissant. Et la deuxième chose qui est épanouissante, c'est quand les gens arrivent à atteindre leur objectif avec ton aide. Tu vois, ils n'y arrivaient pas, ils étaient bloqués. Toi, tu viens, tu dis, bah, écoute, je sais comment on fait, je vais te montrer. Tu leur montres. Effectivement, ils y parviennent. Et ils sont super contents. Du coup, ils passent à l'étape suivante. T'imagines, des fois, les gens, ils sont bloqués depuis des années, en fait. Donc ça aussi, c'est très épanouissant, c'est valorisant, et du coup ouais, ça me plaît énormément.
Top. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir? Comment est-ce que tu vois ton entreprise évoluer? Est-ce que tu veux avoir plus de clients seulement, ou est-ce que tu as une vision derrière, quelque chose, un projet derrière que tu te réalises en plus?
Effectivement, j'ai des projets. J'ai des petits projets, mais en fait. Comment dire? Tu sais, des fois, je ne sais pas si ça t'arrive, mais des fois, tu es dans une phase de ta vie où toutes les semaines, tu as un nouveau projet.
Ouais,
tu vois. Voilà. Et du coup, à un moment donné, il va falloir faire le tri entre tous ces projets-là et voir où est-ce qu'il est vraiment le plus intéressant de mettre de l'énergie. Et parfois, ce n'est pas toujours d'avoir plus de clients. Moi, par exemple, récemment, j'ai vraiment bossé sur mon expérience client de manière à fidéliser et du coup à accompagner les mêmes personnes sur le long terme. Et du coup, d'avoir vraiment, comment dire, quelques places en fait dans mon accompagnement. Pour vraiment suivre les gens, tu vois. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que d'être là en one shot. Tu vois, t'es là, tu viens en one shot, t'aides un petit peu, puis après, tu vas encore aller sur un autre projet, puis un nouveau, puis un nouveau, puis un nouveau.
Ouais.
Des fois, t'as envie d'un peu plus de stabilité, t'as envie de suivre les gens du début à la fin, tu les vois évoluer, t'as envie de continuer à les accompagner. Donc, voilà, franchement, ça, les projets sont nombreux, mais le choix n'est pas encore arrêté, on va dire.
Écoute, que Dieu te facilite.
Amine, à toi aussi.
Emmanuel, on arrive à la fin de l'interview. On va terminer par quelques petites questions de fin. Quelles sont tes routines préférées? Est-ce que tu as des routines, et quelles sont tes préférées? Les routines, ça peut être des routines quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, peu importe, que tu fais régulièrement, qui t'aident à progresser, qui t'aident à garder la pêche, ou à ce que tu veux.
Ouais, d'un point de vue spirituel, la routine pour moi la plus importante, c'est vraiment les adhkar, les invocations du matin et du soir. Quand tu prends l'habitude de les faire vraiment chaque matin et chaque soir, tu sens une grosse différence sur ta vie, que ce soit sur le moral, sur toutes les choses que tu arrives à faire dans la journée, les facilités que tu obtiens, la résolution des problèmes, la dissipation des obstacles. Des fois, tu vas faire tes adhkars du matin, et après tes adhkars, tu vas demander de l'aide à Dieu, parce que tu peux rencontrer parfois un problème. Et quand ton invocation est exaucée le jour même, tu prends conscience de la puissance de Dieu et du miracle de la foi, en fait. Il y a quelqu'un sur ma chaîne YouTube qui me disait, purée, j'aimerais bien être aussi naïf que toi. Et je ne sais pas si on peut appeler ça de la naïveté. Moi, pour moi, c'est ma foi et elle me guide. Donc, les Hatkar, vraiment number one sur les routines. Après, ce n'est pas vraiment une routine, mais plus une bonne habitude, on va dire. Toujours sur le plan spirituel, c'est vraiment faire la prière de consultation. Quand tu es entrepreneur, tu vois, ton quotidien, c'est de prendre des décisions. Est-ce que je vais faire ce podcast? Est-ce que je vais faire cette interview? Est-ce que je vais lancer ce nouveau projet, etc.? Et ben, en faisant la prière de consultation, tu sais que tu peux y aller les yeux fermés. Donc ça, c'est on va dire une hygiène spirituelle hyper, hyper, hyper importante. Donc sur le plan spirituel, c'est vraiment mes deux routines préférées, on va dire.
Top, merci pour ces partages. Et aussi, je suis content que ta prière de consultation ait été positive pour le podcast.
Alhamdoulilah.
Est-ce que tu as des recommandations, soit de livres, documentaires, films, chaîne YouTube, vu que toi, tu es beaucoup sur YouTube?
Ouais. Au niveau des films sur l'entrepreneuriat, il y a deux films que j'ai regardés il n'y a pas longtemps que je conseille vraiment à tout le monde. Le premier, c'est le nom m'échappe, mais en fait, c'est l'histoire d'un entrepreneur indien qui va lancer, en fait, qui veut créer des... Padman, ça s'appelle. En fait, il veut lancer des serviettes hygiéniques. Fabriqué en Inde à moindre coût parce que c'est un problème de santé et d'hygiène nationale là-bas qui est complètement occulté par le poids des traditions et par les politiques, etc. Alors que même économiquement, c'est une grosse problématique. Donc, on voit en fait comment il se confronte à toutes ces difficultés. Il est vraiment à contre-courant quoi, de son pays tout entier. Et au final, bah, c'est une success story. Donc, sa détermination n'a pas lâché. Il a fini par lancer sa machine. Et ce qui est hyper touchant, c'est qu'à un moment donné, on lui dit bah, « ça y est, t'as le modèle de ta machine, tu peux le breveter. » Et du coup, toute personne qui voudra l'utiliser devra payer. Et là, il dit « mais en fait, moi, je m'en fous de l'argent. » C'est pas ça qui m'intéresse. Je ne suis pas intéressée par l'argent. Moi, ce que je veux, c'est régler les problèmes sociaux. Donc, il met son invention en open source, ce qui permet à des tas de coopératives de femmes qui n'ont pas les moyens de commencer à utiliser sa machine et donc de créer des centres d'intérêt économique, des petites coopératives et des choses comme ça. Et donc, il développe, non seulement il règle un problème massif d'hygiène et de santé publique, et en plus, il crée de l'économie et il rend ces femmes autonomes et indépendantes économiquement. Donc, un très, très beau film.
Ah, c'est génial.
Et le deuxième film, c'est plus, comment dire, c'est dans un autre style. C'est plus romancé, c'est pas vraiment biographique à 100%, mais c'est la vie de Piaggio, je sais plus son prénom, Piaggio, qui a lancé donc le Vespa. Et comment il a participé à la reconstruction de l'Italie après la guerre mondiale. Donc c'est pareil, c'est vraiment une jolie histoire. Bon là c'est moins factuel, c'est moins biographique, mais ça reste une jolie histoire, surtout quand on aime l'Italie, la culture italienne. Étant moi-même d'origine italienne, ça a été touchant pour moi de voir cette histoire.
Celui-là s'appelle comment, le deuxième?
Je crois qu'il s'appelle l'abeille. Parce qu'en fait, Vespa, ça veut dire l'abeille en italien. Ou la guêpe, je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus le nom. Mais si tu tapes...
On va essayer de le retrouver.
Si tu vas sur le fameux... abonnement de stream que tout le monde a, et que tu tapes Piaggio, tu vas le trouver.
Piaggio. Bon, moi, je ne l'ai pas. Je n'ai pas cet abonnement-là, donc malheureusement, mais je le retrouverai quand même. Il y a Google.
Oui, voilà.
Et du coup, la dernière question, Emmanuel, si un auditeur ou une auditrice souhaite suivre ton travail ou regarder ce que tu fais, du coup, il y a toutes les chaînes, bon, moi, je les mettrai en description, chaîne YouTube, Instagram, peut-être il y a d'autres choses, tu nous diras. Et si elle souhaite te contacter aussi pour un conseil ou pour pouvoir accéder à tes services, comment faire?
Si vous voulez me contacter, le plus simple, c'est de m'envoyer un DM sur Instagram. C'est là où c'est vraiment le plus simple d'échanger. Maintenant, si les personnes elles veulent plutôt faire appel à mes services, dans ce cas, elles peuvent aller sur mon site internet et prendre directement un rendez-vous. Là, ça nous permettra d'avoir un échange au téléphone où on pourra voir ce qui correspond vraiment à leurs besoins et à leur situation.
Très bien. Ton site internet, c'est emmanuelconnet.fr/lien.
Oui, c'est ça. Ça.
D'accord.
Non, pas slash lien. Le... Non, non, pas lien. Bien. Juste emmanuelconnet.fr, c'est tout.
D'accord. Bon, je mettrai ça en description, Inch'Allah. Écoute, Emmanuel, je te remercie beaucoup pour ton temps, pour tes partages d'expérience. Et au niveau des auditeurs, auditrices, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter Emmanuel. Hein. Je mettrai les liens en description, Inch'Allah. Et puis voilà, je demande à Dieu qu'il te facilite dans ta nouvelle aventure. Même si c'est la continuité de ce que tu faisais avant, mais c'est un nouveau projet que tu réalises toute seule. Pardon. Et voilà, je demande à Dieu qu'il te facilite, qu'il te mette la baraka, Inch'Allah.
Amine, à toi aussi, à tous les auditeurs qui nous écoutent, tous les musulmans dans le monde. Bravo pour ton podcast. C'est vraiment d'utilité publique, super important que les musulmans puissent prendre la parole, puissent avoir une représentativité. Donc, comme je le disais régulièrement, plus on prendra la parole par nos propres médias, plus on fera entendre notre voix et plus on pourra aussi construire ce qui compte pour nous et réaliser la vision qui nous importe. Donc, bravo pour ton travail. C'était un plaisir d'être ton invité. Et vraiment, j'espère que ton podcast il va beaucoup se développer, biznillah. Je souhaite beaucoup de baraka et beaucoup de réussite et de succès dans ce beau projet.
Merci beaucoup, Emmanuel. Je te dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.
Inch'Allah. Alaikum salam wa rahmatullah.
Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.